Bonsoir. Environ 14 000 Congolais ont été expulsés de l'Angola en 2 semaines, soit du 16 au 30 mai dernier. C'est ce qu'a révélé le week-end dernier à Kinshasa l'ONG italienne CISP, qui travaille dans les provinces frontalières avec l'Angola, à savoir le Congo central, le Bandundu et le Kasai occidental. La coordonnatrice de protection de CISP RDC se dit préoccupée de la poursuite de ces expulsions depuis plus de 10 ans maintenant, accompagnée des graves violations du droit de l'homme. Comment analyser cette situation et que faire pour y mettre fin? C'est le thème du dialogue entre Congolais de ce mercredi 17 juin 2015. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Maître Célestin Tounder Kassindé, vice-ministre honoraire des Affaires étrangères. Il est aussi secrétaire général adjoint du PPRD. Maître Tounder, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Karim Bombo, consultant en protection à l'ONG Communauté internationale pour le développement du peuple, CISP en sigle. Monsieur Mbombo, bonsoir.
Bonsoir.
Et Willy Iloma, coordonnateur de l'ONG Fraternité pour les droits de la population et président de toutes les structures de droits de l'homme de Mwanda au Congo central. Monsieur Iloma, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous suivre à Kananga, au Kasai occidental, sur la 93.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78. Et par mail, écrivez-nous à tech@radiokapi.net.
Je l'ai dit, environ 14 000 Congolais ont été expulsés de l'Angola en 2 semaines, soit du 16 au 30 mai dernier. Dans une interview accordée à Radio Capi, la coordonnatrice de protection de CISP RDC se dit préoccupée de la poursuite de ces expulsions depuis plus de 10 ans maintenant, accompagnée des graves violations de droits de l'homme. Face aux problèmes humanitaires qui se posent dans les localités d'accueil, Alessia Galdeiri lance un cri d'alarme en faveur des expulsés. On les écoute au micro de Michel Kifinda.
Ce phénomène a commencé dans les 2003. La situation c'est toujours la même. Il y a des Congolais qui sortent pour aller à l'Angola en cherchant du travail. Ils vont travailler surtout dans les minières, mais ils sont des clandestins. Quand le gouvernement décide de commencer les expulsions, ils sont sujets de graves violations des droits de l'homme. C'est-à-dire détention illégale, viol pour les femmes. Il y a beaucoup d'enfants non accompagnés et des autres cas graves. Maintenant, la situation c'est quand ils arrivent à la frontière, il n'y a vraiment personne qui paie les dés. Ils sont laissés dans la brousse. Maintenant, dans les mois de mai, du 6 jusqu'à la fin du mois, on a eu un grand vague des expulsions qui a reçu les 15 000 depuis le début de l'an. Ils sont 30 000. Comme vous pouvez voir, c'est la moitié de la totalité de l'an qui est seulement dans les mois de mai. Et on peut dire déjà que ça va continuer jusqu'à la fin de août.
Le vice-ministre en charge des Congolais de l'étranger a indiqué que le gouvernement mène des actions diplomatiques avec d'autres pays pour remédier aux actes de violence qui accompagnent souvent les expulsions de ses compatriotes. Antoine Boyamba invite les compatriotes à rester chez eux parce que, selon lui, la vie n'est pas toujours aisée ailleurs. On l'écoute au micro d'Agathe Pona.
À chaque fois qu'il se pose ce genre de problème, je convoque, selon les règles diplomatiques, les ambassadeurs qui sont accrédités chez nous. J'ai fait ça avec celui d'Afrique du Sud, je vais le faire avec celui du Congo-Brazzaville pour leur faire part de nos préoccupations et aussi de notre indignation. C'est ce que nous pouvons faire d'abord sur le plan diplomatique. S'il vous plaît, n'attendez pas non plus qu'on puisse envoyer l'armée aller sur ces pays-là. Nous appelons leurs ambassadeurs accrédités à Kinshasa pour leur poser la question pourquoi ce genre d'actes posés à l'encontre de nos compatriotes. À travers la maison des Congolais de l'étranger que nous sommes en train d'installer ici, nous allons commencer une campagne pour expliquer à nos compatriotes qui veulent sortir du pays. Voilà dans tel pays les difficultés que vous allez rencontrer et les avantages peut-être s'il y en a. Nous essayons d'expliquer à nos compatriotes femmes les dangers qu'elles encourent en allant dans certains pays du Moyen-Orient où elles sont transformées en esclaves sexuels. Donc, on est mieux que chez soi.
C'était le ministre en charge des Congolais de l'étranger, Antoine Boyamba. Karim Bombo, je rappelle que vous êtes consultant protection à l'ONG Communauté internationale pour le développement du peuple CISP en sigle. Environ 14 000 Congolais ont été expulsés en 2 semaines, soit du 16 au 30 mai dernier. C'est quand même trop. D'où vient ce chiffre?
Au fait, ce chiffre, nous l'avons eu avec nos partenaires qui sont sur terrain. Comme cela a été expliqué par ma collègue Alessia Galdieri, le CISP travaille sur la question depuis 2010 et nous travaillons dans 3 provinces et dans 7 territoires, dans 7 zones, 8 zones, pardon. Et les chiffres que nous avons partagés avec la radio CAPI et que nous avons partagés avec d'autres acteurs, nous l'avons récolté sur terrain. Cela a été partagé par nos partenaires qui sont sur terrain, Agide, je citerai Agide et Prozap, qui sont respectivement dans le territoire de Chicapa et de Luisa, qui ont travaillé depuis le... Dans leur travail, nous travaillons toujours chaque mois. Nous récoltons le chiffre sur le monitoring de violations des droits de l'homme ainsi que des expulsions de Congolais. Et particulièrement, pendant cette période, ils ont été sur terrain et ils ont constaté qu'il y a eu augmentation. Et ça ne s'est pas seulement arrêté au mois de mai. Et maintenant, si je peux peut-être partager les informations actualisées. Et actuellement, nous avons déjà dépassé le cap de 30 000, donc plus de 25 000 uniquement pour la province du Kasaï occidental.
Et ça, c'est pour quelle période? Ça concerne quelle période?
Là, je prends juste la fourchette entre début mai et le 8 juin.
Début mai et 8 juin. Oui. Vous dites que vous travaillez avec des partenaires qui sont sur place, mais vous-même, oui. Vous n'êtes pas allé sur terrain pour constater que les informations que vos partenaires vous donnent sont vraies?
Non. Il y a un de nos collègues, le chef de base de notre ONG à Kananga, qui revient d'une mission... au niveau de Kamako, dans toute la bande frontalière entre la RDC et l'Angola de ce côté-là. Il est là, il est allé vérifier et les informations que nous vous partageons, ce sont des informations qui sont sûres parce que nous-mêmes, le CSP, nous avons une base au niveau de Kamako et bientôt, si tout va bien, nous allons encore ouvrir une autre base au niveau de Luisa. Mais nous travaillons avec nos partenaires sur terrain.
Alors, comment vous expliquez ces expulsions avec tant de brutalité, des violences?
Au fait, pour l'historique, par rapport à la situation actuelle, il nous a été rapporté que le gouvernement angolais a dû vendre les carrés miniers. C'est l'endroit où la plupart des Congolais, surtout dans la frontière entre la RDC et l'Angola du côté du Kasaï, ils ont dû vendre le carré minier. Et les nouveaux propriétaires qui ont acquis ces terrains, ils ont cherché à se débarrasser des Congolais qui travaillaient là, qui du reste vivaient dans une situation d'irrégularité avec le gouvernement angolais. Et ils ont dû demander au gouvernement de guérir ou bien d'expulser ces Congolais. Mais, encore une autre information que je peux compléter, nous venons d'apprendre que le gouvernement angolais a donné un moratoire de 14 jours aux citoyens congolais vivant dans le sol angolais pour quitter, donc à partir du 16 jusqu'au 30.
Ce sont des Congolais qui sont en situation irrégulière.
Oui. Qui vivent en situation irrégulière en Angola.
Alors, on a suivi votre collègue Alessia tout à l'heure dans le son qui est passé, qui s'est plaignait du fait qu'il n'y a pas une prise en charge lorsque ces expulsés arrivent au Congo. Vous confirmez cela?
Au fait, je confirmerai cela, mais je compléterai en disant que actuellement, le CISP, avec les maigres moyens que nous disposons, avec nos partenaires qui sont sur terrain, nous faisons de notre mieux pour apporter l'assistance qu'on peut. Donc, donner aux expulsés qui arrivent, qui arrivent dans des situations vraiment très, 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 très critiques.
Maigre moyen que vous avez, comment vous arrivez à mobiliser ça? Vous avez des partenaires qui vous aident?
Pour ça, je dirais que le CSP, entre 2010 et 2015, nous avons mis en œuvre plus de 15 projets en faveur de Congolais expulsés de l'Angola. Et nous continuons les acquis de ce projet-là. Entre autres, nous avons dû à équiper les structures de santé, les familles d'accueil et les structures d'accueil pour la réception des expulsés. Donc les équipements basiques, hein, avec de matelas, de draps, de gobelets, des marmites, ainsi de suite, pour permettre aux structures d'accueil de recevoir les personnes qui arrivent. Et c'est avec ces moyens que nous avons déjà mis en place depuis et que nous continuons toujours à contribuer tant soit peu à soulager la souffrance.
Est-ce que le gouvernement congolais vous accompagne? Est-ce que le gouvernement est courant de cette situation? Est-ce que vous avez approché le gouvernement congolais?
Je dirais oui, nous avons approché le gouvernement. Là, je veux préciser que sur terrain, dans le province, précisément dans le territoire, nous avons mis en place des plateformes de concertation qui réunit les acteurs de la société civile locale et les autorités qui se réunissent régulièrement chaque mois. Donc, au niveau du Kasaï, on l'appelle Sakara. Et dans ces plateformes-là, nous pensons que les autorités sont informées, mais aussi, dernièrement, ici, le 22 avril, nous avons organisé une conférence où le ministre, l'actuel ministre des Congolais de l'étranger, le vice-ministre chargé des Congolais de l'étranger, était invité, il était avec nous, et nous avons partagé, et cela nous a permis d'avoir des portes grandement ouvertes pour échanger avec le gouvernement sur le sujet.
Alors, ces expulsés, ils restent pendant combien de temps dans les familles d'accueil?
Généralement, nous les acceptons pendant 5 jours parce que vous comprenez que il y a beaucoup de vagues qui arrivent, mais il arrive des fois que certains expulsés restent pendant plusieurs jours, voire même plusieurs mois. Mais généralement, la plupart d'eux aussi passent pour soit rentrer vers le lieu d'origine ou tenter encore de rentrer en Angola.
Merci, Maître Célestin Tunda Kassende. Je rappelle que vous êtes vice-ministre honoraire des Affaires étrangères. Vous êtes aussi secrétaire général adjoint du PPRD. Comment vous analysez cette situation? Vous avez été vice-ministre des Affaires étrangères. Il y a eu cette vague d'expulsion des Congolais, pas seulement de l'Angola, mais aussi du Congo-Brazzaville pendant que vous étiez en fonction.
Effectivement, madame. Vous dites vrai. Au moment où j'étais à mon poste aux affaires étrangères, effectivement, j'ai eu à gérer de près le dossier des expulsions de nos compatriotes de Brazzaville, donc du Congo-Brazzaville. Mais pas seulement du Congo-Brazzaville, nous avions eu également des cas similaires pratiquement en Inde, où certains de nos étudiants, à l'époque, 21 au total, furent arrêtés et molestés. Et nous avions mené des actions d'envergure pour que ces jeunes étudiants puissent sortir de la prison. Et effectivement, ils sont sortis de la prison. Mais après, il y a eu également quelques cas de mort d'hommes, des étudiants qui ont été victimes de certains incidents en ville, à New Delhi, et qui sont décédés par brutalité. Et nous avons géré ces dossiers. Tout récemment, évidemment, là j'étais déjà parti du ministère, nous avons vécu la situation de nos compatriotes en Afrique du Sud. L'opération en Afrique du Sud ne visait pas seulement les Congolais de Kinshasa, ça visait un bon nombre de citoyens africains, parmi lesquels nos propres frères, nos propres fils. Et là encore, il y a eu quelques cas de mort d'homme. Bon, évidemment, la situation de l'Angola a la particularité d'être une situation, disons, d'expulsion massive. Parce que les chiffres que nous venons de suivre ici, ce sont des chiffres qui font trembler. 14 000 compatriotes expulsés.
En 2 semaines.
Oui, en 2 semaines. Et là, il y a un autre chiffre qui a été...
30 000 en un mois,
30 000, oui, 30 000, disons, compatriotes, 30 000 Congolais expulsés en un mois. Je crois que ça, c'est des situations, franchement, qui ne sont pas agréables. Ce sont des situations qu'il faut déplorer. Évidemment, je crois que vous
mais
aviez...
Mais qu'est-ce que le gouvernement fait? Ce n'est pas la première fois. Ça fait plus de 10 ans que ce phénomène existe. Mais le gouvernement fait quoi pour ces gens qui sont expulsés? Il n'y a pas de prise en charge, comme on l'a suivi tout à l'heure, avec Alésia, qui est de l'ONG CISP.
Oui. D'abord, la précision que je voulais donner, c'est par rapport à la question que vous avez posée vous-même. Vous avez voulu savoir, disons, de la part de nos amis de l'ONG, si ces chiffres étaient certifiés. Parce que ici, vous comprenez que, pour ce qui me concerne, je parle en professionnel, donc je dois avoir certaines réserves par rapport à des éléments qui sont produits. Mais supposons que ces chiffres soient plus ou moins vrais, qu'ils se rapprochent plus ou moins de la réalité. À cela, je dirais que, et vous posez bien la question, pour l'Angola, par exemple, il y a un accord qui existe en ce qui concerne le mouvement des populations et même lorsqu'il s'agit des expulsions. Cet accord qui date, je crois, d'une dizaine d'années, ça concernait l'Angola, la République démocratique du Congo, et le Congo-Brazzaville. Lorsqu'il y a eu les dernières expulsions de Brazzaville, les deux gouvernements, c'est-à-dire Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville, on a dû actualiser cet accord, disons les éléments de cet accord, pour les deux pays. Mais pour l'Angola, je crois que le texte ancien est encore valable entre nous et l'Angola.
Un accord qui n'est pas respecté.
Bon, un accord qui n'est pas respecté, c'est ce que j'ai dit que c'est déplorable, c'est pitoyable. Parce que, premièrement, concernant nous et l'Angola, nous sommes des pays très voisins. Nous sommes des pays voisins. Et il y a même mixage de population entre nos deux pays. Bon, deuxièmement, il faut qu'on sache rappeler aussi, et notre gouvernement, ça c'est son rôle, de rappeler, vous savez, dans les négociations, il faut toujours se mettre parfois en position de force. Et les éléments de l'histoire permettent à chaque dirigeant, à chaque homme politique, de pouvoir aiguiser, n'est-ce pas, son dossier pour les négociations. L'Angola, notre pays a joué un très grand rôle en ce qui concerne les problèmes d'immigration. Vous savez qu'avant l'indépendance de l'Angola, avant que l'MPLA ne s'installe à Luanda, il y avait ici chez nous, sur le sol congolais, pas des dizaines, pas des centaines, j'ai dit bien des millions de Congolais qui vivaient chez nous.
D'Angolais, vous voulez dire?
Des millions d'Angolais qui vivaient sur le sol congolais. Et parmi ces millions, la plupart des dirigeants en Angola, des responsables en Angola, ont vécu ici, en Djili, à Matongé, à Fokombel. Beaucoup d'Angolais, beaucoup de dirigeants ont vécu ici. Et ce cas, des situations comme celle-ci, ne se sont jamais passées. Donc, nous devons aussi savoir rappeler, parce que nous ne devons pas seulement d'emblée accepter...
Donc, le gouvernement, on a l'impression que le gouvernement discute, ou lorsqu'il y a ce genre de rencontres, et discute en position de faiblesse. Le gouvernement congolais ne tente pas pour dire que trop c'est trop. Vous expulsez nos compatriotes dans de mauvaises conditions, c'est l'impression que ça donne.
Non, le gouvernement certainement fait son travail, le gouvernement fait son job. Vous vous rappelez même quand il s'agissait de Congolais expulsés de Brazzaville, des délégations parmi lesquelles moi-même j'ai conduit des délégations pour aller à Brazzaville, on frappe le poing sur la table. Je vous ai dit que...
Mais on ne vous suit pas malheureusement.
Non, c'est suivi, mais nous venons de suivre le vice-ministre des Congolais à l'étranger. Il a dit, on ne va pas envoyer des armées, effectivement, il a raison, on ne va pas envoyer des troupes dans les pays qui expulsent les Congolais. Mais je pense que nous devons insister, lorsque nous parlons avec ce pays, on doit rappeler certaines choses. Parce que si vous regardez ici chez nous, même à Kinshasa, tous les étrangers qui vivent ici, ils sont à millions et la plupart ne sont pas en ordre.
Merci.
Donc nous ne pouvons pas culpabiliser d'avance nos citoyens en disant qu'ils sont des clandestins, pas nécessairement.
Merci, Tunda. On vous redonne la parole tout à l'heure. Willy Iloma, coordonnateur de l'ONG Fraternité pour le droit de la population et président de toutes les structures de droits de l'homme des Mwanda au Congo central. Comment vous analysez cette situation?
Oui, merci madame pour la parole. Au fait, 14 000 Congolais expulsés dans deux semaines, c'est quand même un chiffre alarmant. Et là, depuis d'abord, je voudrais ici rappeler quelques principes universels de base. Il est reconnu que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence dans l'intérêt d'un État. Je dis bien d'un État. Ça c'est un. De deux, il reconnaît ce que toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ça, c'est de deux. De trois, les États ont la responsabilité de déterminer les conditions d'entrée et du séjour des non-nationaux sur leur territoire pour la protection de leurs citoyens et de leurs intérêts nationaux sous réserve des dispositions applicables au droit international. Et donc, par là, ces principes universels sont presque parfois violé par les autres pays, parce que celui qui traverse la frontière, on l'appelle migrant. Il est important aussi qu'il puisse se conformer aux conditions pour une bonne immigration. Mais pour le cas de nos compatriotes, les raisons de l'immigration, il faudrait maintenant commencer par là. Qu'est-ce qui fait que les Congolais puissent quitter le pays et aller se retrouver en Angola, se retrouver au Congo-Brazzaville? C'est parce qu'il y a les mauvaises conditions socio-économiques au pays. Aussi, il y a les problèmes confrontés à l'extrême pauvreté. Il pense qu'en allant en Angola, en allant au Congo-Brazzaville, c'est d'ailleurs le droit de mieux vivre là-bas. Les autres, c'est aussi pour des raisons politiques. Et alors, partant de cela, le gouvernement doit arriver à mettre des meilleures conditions de vie pour éviter qu'il y ait des fuites de cerveau. J'ai entendu tout à l'heure le ministre honoraire de l'Afrique française parler que son bilan était quand même négatif. C'était d'ailleurs par rapport à quand lui était là, il y a eu beaucoup d'expulsions. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je me rappelle, en 2006, il y a eu mort de Congolais dans les chaos de cabine d'Angola ici. Le gouvernement congolais n'a rien fait. Les familles de ces victimes n'ont jamais indemnisé jusqu'à ce jour. On a violé nos soeurs, nos mamans, de l'autre côté de Brazzaville. Qu'est-ce que le gouvernement congolais a fait? Les ministres viennent de dire qu'il est parti avec une délégation. Est-ce que les familles ont été indemnisées? Est-ce qu'il y a eu réparation? Je pense non. Donc, par là, partant de là, nous disons que nous négocions en position de faiblesse.
Alors, on a suivi le vice-ministre en charge des Congolais de l'étranger qui a indiqué que le gouvernement mène des actions diplomatiques avec d'autres pays pour remédier aux actes de violence qui accompagnent souvent les expulsions de ses compatriotes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça pourrait aider ou pousser les autres pays à revoir leur manière d'expulser les Congolais?
En fait, il y a des conventions. Il suffit pour rappeler, par exemple, la Convention des Nations Unies sur les droits des migrants en juillet 2003, qui reconnaît la protection des migrants en situation régulière ou irrégulière, où tous les droits doivent être protégés. Mais surtout ici, chez nous, on constate que les droits des migrants ne sont pas respectés, même si c'est une situation irrégulière. La dignité humaine n'est pas respectée. Ils sont violés, ils sont frappés, ils sont torturés. Alors, revenons sur le communiqué conjoint du 13 octobre 2009, signé entre l'Angola et la RDC, sur les expulsions des citoyens dans leurs états respectifs. Encore une fois de plus, une lettre morte. Cependant, dans le communiqué, il est stipulé que le processus d'expulsion des immigrés illégaux devra désormais se faire sur base de concertations préalables du respect des droits humains. Et cela s'est fait. Non. Et pourquoi nous, chaque fois qu'on nous expulse, nous on ne réagit pas? Il y a mort d'homme, nous on ne réagit pas. Mais nous avons un État, nous avons le gouvernement qui doit nous sécuriser. Mais alors moi je dis non, le ministre, excusez-moi, il n'a pas bien fait son travail, son bilan n'a pas été tout à fait correct. Et donc celui qui est là doit quand même faire une diplomatie assistante pour que nous puissions être respectés.
Alors vous êtes président, plutôt coordonnateur de l'ONG Fraternité pour les droits de la population. Est-ce que vous, ONG, vous n'avez pas cette responsabilité aussi de pouvoir sensibiliser la population ou sensibiliser tous ces Congolais qui quittent le pays pour aller s'installer ailleurs, qui sont en situation irrégulière?
Nous les faisons souvent. Nous les faisons souvent. Nous leur disons, pour quitter le pays, il faut être en ordre, il faut se conformer aux principes. Il faut avoir son passeport en bonne forme et valide. Et par là aussi, il faudrait que le gouvernement puisse alléger les conditions d'obtention de passeport. Quelqu'un qui est à Mwanda, qui voudrait aller vivre régulièrement en Angola, à Cabinda, il doit aller à Kinshasa ou à Matadi pour chercher son passeport. Il n'a pas de famille à Matadi, il doit faire 2 semaines. Il n'a pas de famille à Kinshasa, il doit faire 1 semaine. Et d'ailleurs, là, il faut faire même 1 mois pour avoir son passeport. Il va résider chez qui? Est-ce qu'on ne sait pas vraiment décentraliser cela, amener au niveau des bureaux de DGM pour qu'il y ait les Congolais qui voudraient aller de manière régulière, puissent avoir accès au passeport et voyager dans les meilleures conditions. Et arriver là-bas, si il constate qu'il peut continuer ses séjours et aller prolonger. Mais là, ça ne se passe pas. Il faut aller à Kinshasa, il faut faire 3 semaines, 4 semaines. Tu vas vivre chez qui si tu n'as pas les moyens? Ça, c'est un problème. Vous êtes à Cabinda. Il n'y a pas un consulat qui protège les Congolais. Mais ici, au Congo central, nous avons un consulat à Matadi. Nous avons même un consulat à Mwanda. Et les Angolais qui vivent au Congo central sont, sur le plan consulaire, très bien sécurisés. Mais allez-y à Cabinda, il y a une forte concentration des Congolais, mais ils ne sont pas sécurisés, il n'y a pas d'accord diplomatique. Voilà, tout ça, c'est bon, on les avait déjà plusieurs fois dit au niveau du gouvernement provincial, de l'administration du territoire, au niveau de la province, mais c'est jusque-là, ça, c'est comme s'ils ne s'attendent pas.
Merci, Monsieur Willy Iloma, vous redonne la parole tout à l'heure. Monsieur Karambombo, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kolwezi au Katanga.
Philippe Maseka à Kolwezi au Katanga. Cette vague de fusion des Congolais d'Angola intervient pendant que la RDC continue à assurer un rapatriement volontaire en toute dignité des Angolais. Notre gouvernement ne doit pas rester muet devant cette situation pour le respect de ses citoyens.
Alors cet auditeur pense que le gouvernement ne doit pas rester muet, il doit agir.
Effectivement, le gouvernement ne doit pas rester muet, parce que par rapport au chiffre que nous avons donné, moi, lors des analyses, on dit toujours qu'on peut donner 14 000, mais nous devons savoir que ce sont des individus. Et on n'a même pas encore parlé de cas de violation qu'ils ont subis. Il y a plus de 8 000 violations de droits de l'homme qu'ils ont subies, notamment plus de 100 cas de violation de viol, de 100 cas de viol. Et on a aussi connu, on nous a aussi rapporté par nos partenaires sur le terrain qu'il y a actuellement à peu près 8 cas de personnes qui sont décédées suite aux expulsions par rapport aux conditions qu'ils ont subies pendant les détentions. Et je pense que le gouvernement congolais doit effectivement agir. Tout récemment, là, au mois d'avril, comme j'ai partagé tout à l'heure lors de la conférence, nous avons partagé quelques recommandations avec le gouvernement congolais par l'entremise du ministre en charge de Congolais de l'étranger, ainsi que les autres délégués des ministères qui étaient là, notamment le ministère de droit et le ministère du plan. Nous avons demandé au gouvernement congolais d'éveiller et de voir dans quelles possibilités redynamiser les accords tripartites entre la RDC, l'Angola et le Congo-Brazzaville, mais aussi penser dans un bref délai, dans un plan à court terme, à ouvrir des consulats au niveau du côté de l'Angola, principalement au niveau de Ouija, au niveau de Soyo, Mbanza-Congo, Cabinda, pour Enzazi, pour faciliter la protection des migrants congolais qui sont de l'autre côté. Sinon, la situation risque de devenir aller de mal en pire dans les jours qui viennent, surtout avec l'ultimatum que les Angolais ont lancé pour les 14 jours.
Et c'était quoi la réaction du gouvernement lorsque vous leur avez proposé tout cela?
Je pense que la réaction du gouvernement a été qu'ils sont en train de déployer des efforts pour redynamiser et puis intervenir dans ce domaine. Donc, je pense que l'intervention du ministre, de l'actuel ministre, dit mieux. C'est la même chose qu'il a partagé avec nous pendant la conférence.
Il propose aux Congolais de rester chez eux parce que selon lui, la vie n'est pas toujours aisée ailleurs.
Moi, je pense que tout individu, comme l'a rappelé le coordonnateur au niveau des Mwanda,
Monsieur Willy Loma,
tout individu a le droit de se déplacer, d'aller dans un pays. Mais je pense que la responsabilité revient au gouvernement congolais d'assurer la protection de ses citoyens à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays à travers une diplomatie forte et très rapprochée.
Alors, selon M. Willy Loma, les conditions de vie au Congo, les mauvaises conditions de vie au Congo, c'est ça qui pousse les Congolais à aller chercher une meilleure vie ailleurs. Vous partagez son point de vue?
Oui, bien sûr, il n'a pas tort, parce que la plupart des expulsés que nous rencontrons, personnellement, moi, j'ai fait beaucoup le terrain, notamment donc j'ai parcouru tous les 2500 kilomètres qui séparent la RDC et l'Angola, et la plupart des cas, les personnes que nous rencontrons, c'est ce qui nous explique, c'est à la recherche du bonheur. Il y a plusieurs qui laissent la famille ici, mais il est aussi à noter que la plupart des personnes qui partent en Angola, ils ne partent pas main vide, mais partent avec quelque chose dans l'espoir de fructifier ce qu'ils ont gagné par rapport à la situation économique qu'il y a actuellement en Angola, où l'économie est un peu florissante par rapport à l'économie congolaise.
Merci Monsieur Karimbombo. Maître Tonda, on va prendre pour vous aussi cette réaction qui nous vient de Lubumbashi, encore une fois au Katanga.
Patrick Mbouli, Kassama, depuis Lubumbashi, dans la province du Katanga. Pourquoi le gouvernement congolais est toujours insensible pour ce qui concerne l'expulsion des Congolais à l'étranger? Il y a combien de rapports des ONG, tant nationales qu'internationales, qui dénoncent les actes de violence graves qui accompagnent ces expulsions? On ne sait pas si le gouvernement est dépassé par les événements. La commission mixte des deux Congos, où est son rapport sur les violations graves des droits humains qui auraient été commises par les services de sécurité du Congo Brazza? Que le gouvernement prenne aussi les mesures de rétorsion contre le pays qui viole les accords internationaux.
Maître Tunda, comment vous répondez à cet auditeur?
Oui, je crois que sa question est très intéressante. Et elle se réfère même aux propos que j'ai entendus tout à l'heure du coordonnateur Willy, je crois pas Willy Loma. C'est la même chose. Le gouvernement, n'est-ce pas, de votre pays, fait ce que doit faire tout gouvernement. Et particulièrement le ministère des Affaires étrangères, ça je le confirme. Parce que ne croyez pas, madame, que dans des pareils cas, et ça, mon ami qui est vice-ministre des Congolais des étrangers aujourd'hui, il l'a dit, le gouvernement ne va pas prendre des armes pour aller se battre dans tous les pays où il y a des problèmes.
Le gouvernement résout ce problème à travers des mécanismes appropriés, notamment par la diplomatie, et la diplomatie se fait comme il se doit. Le gouvernement agit également à travers les services, disons, compétents à la matière, notamment la DGM et les autres services du ministère de l'Intérieur, pour rencontrer tous ces cas. Donc, il ne faut pas que M. Willy Loma, ou plutôt notre ami de Lubumbashi, puisse, n'est-ce pas, s'imaginer que il faut qu'il y ait une guerre entre la République démocratique du Congo et l'Angola, ou bien entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazza, pour qu'eux soient convaincus qu'effectivement le gouvernement congolais fait quelque chose.
Mais où est-on maintenant avec le rapport sur les exécutions de Madame.
Je vais y arriver, mais il faut que nos compatriotes comprennent que la République démocratique du Congo ne va pas agir en violant les droits humains pour répondre aux violations des autres pays. Parce que si c'est que certains compatriotes tels que le coordonnateur imaginent, eh bien je vous dis que le gouvernement congolais ne le fera pas, parce que c'est un état de droit. Il y a des mécanismes appropriés à travers lesquels le gouvernement agit et agira toujours. Mais on ne peut pas nous demander une chose. On nous dit, voilà, il y a la Convention des Nations Unies sur les droits des migrants. Ok, qu'il faut respecter. Entre-temps, on sous-entend que
mais
le gouvernement congolais...
Dans notre pays, on voit la réciprocité être appliquée.
La réciprocité, madame, ça ne signifie pas... ne s'applique pas dans la violation des droits. Je regrette beaucoup. Respectez votre pays, tel que le gouvernement travaille, avec professionnalisme, en utilisant les mécanismes universellement reconnus. Et les actions qui sont menées, ne croyez pas que c'est en un clin d'œil qu'on va, n'est-ce pas, arrêter ce qui s'est fait dans les autres pays. On travaille de manière professionnelle, mais on ne va pas violer les droits. Madame, je regrette beaucoup. Ça, on ne le fera pas, en déplaise
mais où
à M. Willy.
Alors, brièvement, Maître Tounda, oui, où est-ce qu'on en a avec le rapport de Brazzaville? Ça donnait quoi, finalement?
Le rapport a donné, la preuve, c'est que, quelles que soient les velléités qui se sont poursuivies, il n'y a... Les choses ne se font plus comme ça se faisait avant.
À Brazzaville. Ça a repris à Pointe-Noire.
Oui, on a demandé. Et ça même, nous pouvons le faire. Nous pouvons aussi faire demander aux étrangers qui sont ici de partir. Mais, tel que ça
s'est fait... pas. Ils sont nombreux en situation irrégulière.
Mais nous le faisons, c'est ce que j'ai dit, nous le faisons avec professionnalisme. Allez à l'aéroport.
Merci.
Vous allez voir à tous les vols qui arrivent combien des étrangers sont rapatriés chez eux.
Merci, Maître Tounda.
Dans les avions qui les ont ramenés.
Merci.
Nous ne devons pas nécessairement exposer tout ce que nous faisons à la place publique.
Merci,
oui,
Maître
Tounda. Oui, voilà,
un peu
la vérité.
Maître
donc, la République démocratique
merci,
du Congo,
Maître Tounda, je vous redonne la parole. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Merci, Maître Tounda. Monsieur Willy Iloma, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Didier Serge Moussanga de Kinshasa, cette situation de refoulement en cascade de nos compatriotes devait interpeller et même préoccuper nos dirigeants. On ne fait aucun ménage à celui qui te hait. Chasser les non-enregistrés est un droit des États qui le font, mais il faut qu'en retour, ces États-là respectent les Congolais, quelles que soient les irrégularités qui puissent peser sur la présence de nos compatriotes sur leur territoire. Car nous pensons que toute personne humaine mérite le respect et le traitement humainement acceptable. Si tout allait mieux chez nous, on n'aurait jamais enregistré un tel score de déshonneur.
Alors, M. Willy Iloma, cet auditeur aborde un peu dans le même sens que vous. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour mettre fin à cette situation?
Oui, en fait, je pense d'abord, je voudrais rappeler ici la convention sur l'établissement de la circulation des personnes et des biens signée à Luanda le 3 décembre 1999. Aujourd'hui, cela s'avère presque obsolète. Parce que là, on détermine les conditions d'exclusion. Mais nous, quand même, on le fait, on a montré toutefois la manière dont nous avons expulsé les personnes en situation irrégulière. Mais le voisin avec qui nous avons signé plusieurs conventions ne les respecte pas. Et voilà pourquoi nous avons dit, nous étant des facteurs des droits de l'homme qui vivent dans la contrée, nous recueillons, nous recevons tous ces gens qui viennent ici et on ne trouve rien comme assistance au niveau du gouvernement. Et d'ailleurs, au niveau de la frontière de Yéma, il y a même un centre de transit où les gens qui sont expulsés, on ne les reçoit pas la deuxième, ils sont identifiés. Une fois après avoir été identifiés, ils sont lâchés comme ça dans... Donc, de la frontière vers la cité, il y a environ 8 km et ils le font à pied. Quand ils arrivent à la cité, c'est quoi? c'est n'importe quoi, c'est la merci de l'abandon tout à fait total. C'est pour nous disons, nous signons bien des conventions, nous signons bien des textes, mais nous n'arrivons pas à les appliquer. C'est pourquoi le ministre honorable ne peut pas s'énerver. Il doit aider son collègue, il doit aider le gouvernement à respecter le Congolais. Nous savons bien qu'on nous respecte. Parce que nous respectons nos voisins, les voisins doivent aussi nous respecter. Les droits humains ne sont pas respectés. Les femmes sont violées. Et il y a une même femme qui a donné naissance dans une pirogue. Il refoulait la partie de son vers monde. Des choses comme ça, c'est inhumain, c'est dégradable. Nous ne pouvons pas accepter des choses comme ça. C'est pourquoi nous crions. Donc le ministre, on ne peut pas s'énerver, il doit prendre des dispositions et parler avec son collègue pour que la situation des Congolais soit vraiment respectée et que la dignité humaine soit restaurée.
Alors qu'est-ce qu'il faut, il faut faire selon vous pour mettre en place cette situation, pour éviter ces expulsions
Oui. Ce qu'il faut faire, c'est que de prime abord, il faut d'abord créer de l'emploi pour les jeunes. S'il y a de l'emploi, les jeunes ne vont pas aller chercher de l'emploi à Cabinda ou à n'importe où. Ils vont trouver de l'emploi ici, ils vont travailler, ils vont être payés, ils vont vivre et chez eux. Il faut aussi apporter de la bonne information aux jeunes. Ne pensez pas que vous pouvez gagner la vie seulement à l'étranger. Vous pouvez gagner la vie ici. Aussi, les jeunes la majorité qui vont à Cabinda ou à Angola là-bas, la majorité n'ont pas de métier. Ils n'ont pas de titres, ils n'ont pas de qualifications. Ils vont soit vous vendre des... Je vous dis, madame, c'est désolant, je suis allé personnellement voir sur place à Cabinda. Vous quittez la RDC, vous allez en Angola pour aller faire les chaussures. Vous trouvez ça normal? Non, c'est quand même sérieux. Ça, tout ça, ce sont des comportements qui ont été diminués. Donc, il faudrait apporter des métiers aux Congolais à tous les niveaux. Il faudrait élaborer aussi les cadres législatifs permettant à réguler la migration. Il y a même les agents de la DGM qui favorisent cette migration irrégulière. Les agents de la DGM vous prennent, vous ne cherchez pas, et la rue, allez, il faut entrer clandestinement. Ça, ce n'est pas sûr. Moi-même, je l'ai déjà vu. Il faut intensifier la lutte contre des réseaux de passeurs. Il y a beaucoup de cas de passeurs. Ici, tous les territoires demandent, non seulement des Congolais, même des Russes africains. Il y a des gens qui sont spécialistes en ça. Il faut passer vers eux pour aller à Luanda. Le gouvernement est au courant de tout ça. Quelles sont les mesures de précaution qui sont faites par rapport à ça? Il n'y a rien. Mais alors que nous crions toujours les ONG, on fait des sensibilisations, on organise des conférences, mais on trouve qu'il n'y a toujours pas de solution. Nous pensons que si on arrive à appliquer quelques principes ici, on pourra quand même arriver à résoudre ces problèmes-là.
Merci, Monsieur Willy Iloma, Monsieur Karim Bombo. Quelles pourraient être les mesures à prendre pour éviter ce genre de situation à la longue?
Je commencerai d'abord par rapport à la situation actuelle qui est au niveau du Kasaï, par rapport à l'information que je partageais pour l'ultimatum qui a été donné. Nous demanderons au gouvernement congolais de faciliter les retours des Congolais. Là, je parle précisément par rapport aux services qui sont affectés au niveau des frontières. Parce que nous avons aussi appris au travers notre mission qui est en cours et nos partenaires qui sont là, que les services de la DGM ainsi que de la douane au niveau des frontières exigent aux Congolais qui rentrent avec leurs biens de payer des douanes. Nous demanderons vraiment au gouvernement de voir dans quelle mesure faciliter ces retours-là, parce que quelqu'un qui rentre avec ses biens, il peut...
Alors, expulsés de l'Angola, ils arrivent à la frontière, ils doivent payer des frais pour rentrer dans leur pays.
Pas les expulsés. Les expulsés sortent membres de l'île. On retient tout du côté de l'Angola. Mais par rapport aux personnes, à l'ultimatum qui a été lancé.
Okay.
Parce que c'est pas la première fois. Le gouvernement angolais l'a lancé aussi en 2013 au mois de mai. On a enregistré plus de 80 000 Congolais qui sont rentrés volontairement avec leurs biens. Mais cependant, nous demandons au gouvernement de faciliter ces retours-là. Parce que les Congolais qui rentrent, on dirait volontairement, mais ce n'est pas un retour volontaire, c'est un retour obligé, donc c'est une expulsion déguisée. Nous demandons au gouvernement congolais de faciliter les retours en veillant ou en regardant comment accompagner ces retours, en évitant peut-être deux fois à exiger le taxe et le douane pour les biens que le Congolais ramène, parce que ces biens peuvent être utilisés pour créer des activités génératrices de revenus au niveau de ce gouvernement, au niveau de la RDC, pardon, pour qui va les décourager en rentrant encore en Angola.
Alors, comment éviter les expulsions accompagnées des graves violations de droits de l'homme?
Comment éviter du côté du gouvernement congolais? Je pense que ce serait de s'approcher de services du gouvernement angolais, particulièrement que les services qui sont au niveau des frontières s'approchent vraiment de l'air homologue du côté angolais pour faciliter éviter qu'il y ait beaucoup de cas de violations des droits de l'homme. Mais là, je vais expliquer que la plus grande responsabilité par rapport aux violations des droits de l'homme, c'est le gouvernement angolais, que nous avons d'ailleurs appelé à respecter les accords internationaux, mais aussi les différentes conventions dont il a signé et ratifié, parce que la plupart des violations sont commises par ces services qui travaillent au niveau de la frontière, mais aussi qui travaillent la police et l'armée qui intervient souvent aussi régulièrement dans l'arrestation. Et le plus grand nombre de cas de violation de l'homme, des droits de l'homme, sont commis pendant les arrestations et pendant la détention. Parce qu'au niveau de l'Angola, ils ont créé plusieurs centres de détention ou de regroupement des migrants. Lorsqu'ils arrêtent les Congolais, ils les mettent dans des centres, souvent c'est dans la brousse, particulièrement entre le Bas-Congo et les Bandundu, c'est souvent dans la brousse, ils arrêtent, ils les mettent là-bas. Au niveau du Bas-Congo, à Cabinda, à Soyo et à Mwanda, ils les mettent souvent, à Soyo et à Cabinda, ils les mettent souvent dans des prisons. Et c'est là qu'il y a beaucoup de violations de droits de l'homme, notamment le cas des viols qu'on décrit souvent pour les femmes.
Merci Karambombo. Maître Tunda, il faut trouver une solution pour éviter ces genres de situations à la longue.
Oui, oui, madame, vous avez parfaitement raison. Tout comme je voudrais tranquilliser notre ami Willy Loma pour lui dire que je ne suis pas du tout énervé et que je ne peux pas, accepter que nos compatriotes soient maltraités nulle part au monde où ils se trouvent. Mais je pense que pour la situation, effectivement, il faut que les gens restent d'abord au pays. Mais je voudrais aussi dire que nous devons nous-mêmes être les premiers avocats de notre pays. On ne peut pas se permettre chaque fois de croire que les mauvaises conditions n'existent qu'en République démocratique du Congo. Moi, j'ai voyagé à travers le monde, et particulièrement à travers l'Afrique. Beaucoup de pays sont dans des conditions beaucoup plus difficiles que la République démocratique du Congo. Et donc, on ne peut pas faire ces plaidoyers-là en croyant qu'au Congo, c'est là où ça ne va pas du tout.
Alors, encore
je confirme que les Congolais doivent rester. C'est un grand pays qui est riche, où il y a beaucoup de potentialités, beaucoup de travail. Et souvent, ceux qui vont ailleurs...
On ne donne pas l'emploi aux jeunes.
Souvent, madame, je vous dis, souvent, les jeunes qui vont à l'extérieur, c'est des gens qui ne veulent pas travailler chez soi.
Merci.
Et ils vont parfois là-bas pour des travaux de champ. Ils laissent un pays où il fait bon vivre, où il pleut 10 mois sur 12.
Merci.
Donc, les raisons qui poussent ces jeunes-là à aller là-bas, c'est pas vrai. C'est pas que là-bas, ils trouvent le bonheur.
Merci,
la preuve, c'est qu'ils reviennent main vide.
Merci, Maître voilà. Tunda. On considère cela comme votre conclusion. Monsieur Willy Loma, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire?
En fait, j'ai dit en conclusion que c'est d'abord un simple état d'imprudence pour le gouvernement de signer les accords et puis qu'on constate que les voisins ne les respectent pas. Il va falloir qu'on puisse les revisiter. Ça, c'est un. Aussi, il faut aussi retenir que plusieurs États craignent aussi que l'octroi des droits aux migrants puisse rendre leur pays plus attrayant, et surtout pour ceux qui ont vu en situation irrégulière. Et donc, il va falloir qu'on puisse quand même, une fois de plus, encore se réunir et discuter sur les différentes conventions que nous avons signées avec nos voisins.
Merci Willy Iloma, Karambombo, on va conclure avec vous. Vous avez préféré faire votre dernier message en Lingala.
Oui, il y a solo na lingi kolobana suka parce que na Lingala parce que na dikeba ndeko na biso ba na Kasai, ba kolanda même au bazana niveau ba province mususu au tozolo na likambo ya expulsé. Toko senga d'abord, vu que actuellement assistance est alité. Tokosenga na bango baza na solidarité. Paye ba koyamba bandeko baza koya, ba pesa bango eloko ya kolia, mo eloko ya kolata, mo ilamba ya kolata, et puis na isika ya kolala. Et pona gouvernement congolais, na kosengete, gouvernement a facilité musalo eza kosalema na ba ONG o baza sur terrain, na ko accompagner bango, mais kasi kaka na maloba te, mais na makoki pe pona ete bandeko na biso basunga mamalamu.
Merci Karambombo, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de dialogue entre Congolais, Alain Hung, Guy Maté, Berry Franklin Luchaka, sous la supervision de Martin Sebujangui, qui m'ont aidé à préparer ou présenter cette émission. Merci à Hippolyte Kapanga qui était à la prise de son. Au micro, Kéline Couté, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.